Les nouvelles éditions de l'économie en question aujourd'hui, l'envie de donner un coup de projecteur à un secteur longtemps ignoré, au mieux regardé avec condescendance par l'économie traditionnelle, mais qui prend de l'ampleur et qui rejoint nombre des préoccupations citoyennes qui sont au cœur de ces deux campagnes électorales que nous vivons. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire et l'occasion nous en est fournie par la publication cette semaine, c'était lundi, du baromètre de la finance solidaire, établi chaque année par l'association Finansol et le quotidien La Croix. Il confirme la forte dynamique déjà observée les années précédentes. En 2016, les produits d'épargne à vocation sociale et environnementale ont collecté près de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Des fonds investis dans des projets choisis par plus d'un million d'épargnants pour financer des entreprises ou des associations engagées dans le social donc ou l'environnemental. Nous allons en donner bien sûr quelques exemples de ces investissements, mais surtout revenir sur les mécanismes qui rendent possible cet élan, sur les conditions de son extension, que peut le nouveau gouvernement pour l'encourager davantage, qu'en disent ou que font les banques, celles à vocation coopérative et les autres, et plus encore quel impact et quelles promesses pour les emplois sur nos territoires. C'est de tout cela que nous parlons avec nos invités, à partir du rapport de cette finance solidaire, de grandes ambitions pour l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes heureux d'accueillir Frédéric Thiberguin, président de cette association donc Finansol, Yaël Zlotowski, directrice générale de la Caisse solidaire et également administratrice du laboratoire quand même d'économie sociale et solidaire. Et à Lyon, il sera avec nous en ligne, Romain Slitine, consultant en économie sociale et solidaire, lui aussi conseiller scientifique et maître de conférences à Sciences Po sur ces questions, qui a fait paraître un ouvrage avec Géraldine Lacroix sur ce sujet. Enfin, en fin d'émission, la chronique de Marie Bellan, qui est aussi avec nous, journaliste aux Échos, qui est venue avec un chiffre, comme d'ailleurs nos autres invités. C'est l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Alors retour donc sur cette économie sociale et solidaire, ce n'est pas la première fois, mais on a envie de dire quand même que ça n'est plus un sujet de se demander quelle importance elle a, si oui ou non un jour elle trouvera sa place. Il semble que oui, quelques chiffres seulement, 10% quand même du produit intérieur brut, plus de 2 millions de salariés dans ce secteur, 2,3 millions précisément. Le premier employeur, et c'est important de le dire, dans des très petites collectivités où bien entendu l'emploi fait souvent défaut, c'est-à-dire à peu près 12% de l'emploi privé. Voilà pour les chiffres. Et ce qui est à noter, ce sera le cas aussi pour la finance dont nous allons parler un peu plus au fond, une croissance de plus de 23% en 10 ans, c'est-à-dire une croissance extrêmement rapide. C'est dans ce contexte, Frédéric Thiberguin, que vous sortez ce nouveau rapport, je l'ai dit, chaque année, et chez vous aussi, très forte augmentation sur 10 ans. C'est à signaler tout de suite, c'est ça qu'il faut retenir.
Écoutez, la finance solidaire a une dynamique propre qui est aidée par le fait qu'il y a énormément de création d'entreprises. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de changer d'échelle et donc qui ont besoin de mobiliser de très nombreux financements. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la finance solidaire finance à peu près à égalité des créations d'entreprises, donc qui ont soit de moins d'un an, moins de trois ans, et de l'autre côté, des entreprises plus importantes, plus anciennes, qui changent d'échelle. Et donc, nous avons aussi une offre financière qui est adaptée aux besoins de chaque stade de développement de l'entreprise, d'où le fait qu'il y ait une dynamique extrêmement forte dans ce secteur.
Alors, disons les choses quand même, cela représente bien sûr un chiffre assez insignifiant dans le patrimoine des épargnants, hein, des épargnants français, mais c'est la progression donc que nous avons retenue. On est à aujourd'hui 0,21%. Votre objectif à 2025, qui pourrait bien être atteint quand même, si l'on en juge par cette progression, 1%, cela vous paraît
de
réaliste et même suffisant
des ménages? Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, le patrimoine financier MH est l'ordre de 4 500 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, la finance solidaire, vous l'avez dit, une dizaine de milliards,
0,21.
Et nous avons, pour arriver à 1%, il faut quintupler la collecte. Et c'est le trend historique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus 23% par an. Et donc, nous espérons bien atteindre les 45 milliards d'ici 2025. Et pour le faire, nous avons toute une série de propositions. Mais ce qui est important de rappeler, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des projets à financer, car ça ne sert à rien de collecter de l'argent s'il n'y a pas de projet à financer. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a un renouveau citoyen, il y a une énorme dynamique entrepreneuriale. Donc il y a des projets à financer, ouais. Donc ça nous motive pour collecter davantage.
Diriez-vous les uns et les autres, je m'adresse à Yael Zotowski aussi et à Romain Slitine, enfin diriez-vous, je pense que vous allez le dire, mais jusqu'où cela peut-il se aller encore, que le contexte est favorable, l'économie sociale et solidaire et la finance, ça n'était pas évident, mais il y a aujourd'hui une vraie volonté d'utilisation plus responsable de l'argent, sans doute liée à la crise de 2008, mais pas seulement d'ailleurs chez les épargnants, mais également les investisseurs institutionnels.
Oui, alors tout à fait, nous, c'est quelque chose que l'on constate, donc moi à la fois en tant que praticienne et en tant qu'acteur de longue date dans la finance solidaire, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc l'engouement et la croissance dont on a parlé, qui est constatée et reliée dans le baromètre de la finance solidaire, nous on la constate réellement systématiquement sur le terrain. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les épargnants, mais également des investisseurs professionnels, souhaitent avoir un usage responsable, utile de leurs ressources. Donc ça, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on constate, et notamment quand on leur explique de façon très claire et très simple à quoi va servir leur argent. Et je pense que c'est beaucoup cette idée d'information claire, de transparence, de traçabilité, de l'usage qui est fait de leur argent, qui encourage beaucoup les épargnants, ouais. Notamment les investisseurs.
Vous parlez là du point de vue d'une caisse solidaire, hein, d'une banque solidaire, et on va voir tout de suite après ce qu'en pensent les grandes banques qui sont engagées, hein, certaines d'entre elles, notamment pas la moindre, BNP Paribas, qui s'engage là aussi. Mais il y a encore pas mal. Romain Slitine, votre point de vue sur ce contexte, j'allais dire presque sociopolitique, hein, qui pourrait être favorable.
Oui, mais comme l'ont dit Frédéric Tiberghien et Yael Zotowski, on est sur une tendance de fond très lourde de développement, à la fois sur la question de l'épargne, on vient de le voir, sur aussi un changement de mentalité et d'attente des consommateurs qui souhaitent consommer de manière plus responsable, savoir où va leur argent, comment ils consomment, mais aussi de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qui se développent, et peut-être qu'il faut donner quelques exemples, parce que ce sont des entreprises qui sont souvent à la pointe de l'innovation. Peut-être un exemple pour nos auditeurs, dans le domaine de la transition énergétique, il y a une société coopérative qui est d'intérêt général, collectif, qui s'appelle Enercop, et qui à la fois produit et distribue en circuit court une offre 100% d'énergie renouvelable en s'appuyant sur des collectifs citoyens de producteurs et en même temps en vendant au grand public de cette énergie qui est durable. Et donc on est sur des tendances de fond de la transition écologique, de la transition sociale avec cette économie sociale et solidaire. Et puis dernier point, moi je vois aussi dans l'enseignement universitaire, les étudiants s'intéressent de plus en plus, donc les jeunes générations s'intéressent également de plus en plus à ce secteur. Il y a aujourd'hui plus de 80 formations sur l'économie sociale et solidaire et plus largement, et on sent véritablement un engouement, et finalement cette énergie va construire cette économie de demain.
Oui, là c'est important, c'est le professeur qui parle, et effectivement les jeunes générations sont beaucoup plus intéressées, sensibles à ces questions. Revenons à cette partie financement, donc vous l'avez dit, des chiffres plutôt satisfaisants avec toutes les réserves que nous avons émises, Frédéric Tiberghien. Qu'est-ce qui manque pour aller plus loin? Voyons peut-être de deux côtés. On a vu peut-être du côté des particuliers, du côté du gouvernement. Un nouveau ministre est arrivé, comme on le sait, Nicolas Hulot, dont l'intitulé d'ailleurs de son ministère comporte le terme solidaire, hein, on le sait, transition énergétique et solidaire. Si l'on remonte un petit peu en arrière, tout de même, la loi Hamon 2014, qui a œuvré pour rendre plus visible l'économie sociale et solidaire, comment est-il encore du côté des pouvoirs publics pour aller plus loin?
Alors,
on parle de financement, là.
J'ai rappelé tout à l'heure que l'origine de la financière sont des initiatives de la société civile, qui donc se développent de façon autonome. Mais on a besoin d'un coup de pouce des pouvoirs publics régulièrement. Et il y en a eu deux et nous en attendons un troisième. Le premier et le plus important, ça a été l'épargne salariale solidaire lorsqu'une loi de 2008 a rendu obligatoire, à partir de 2010, l'obligation de présenter pour les fonds communs d'entreprise et les accords d'intéressement une offre solidaire. Et depuis que cette loi est passée, on le voit encore cette année, il y a 7% des salariés qui ont choisi l'option solidaire. voyez qu'on est loin des 0,21. Quand
Absolument.
L'offre est obligatoire, les salariés le choisissent parce qu'ils trouvent qu'en faisant ça, ils soutiennent des projets utiles pour la société.
Et donc, ce qui veut dire que bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas l'information s'ils
exactement.
Ne le choisissent pas.
Et donc, c'est fort de ce raisonnement et de ce que nous avons demandé au pouvoir public en disant l'État est garant de l'épargne réglementée, livret A, livret de développement durable. Et donc, c'est curieux, il n'y a pas de livret solidaire dans les livrets réglementés. Et donc, la loi Sapin 2 a voté le principe de transformer le LDD en livret de développement durable solidaire. Et une partie de l'épargne collectée sur ce livret va être affectée au financement de l'économie sociale et solidaire. Le problème, c'est que nous attendions un décret d'application pour mettre en vigueur ce texte en 2017. On nous avait promis qu'il sortirait. Donc, ça fait partie des espoirs déçus. Mais nous allons évidemment nous retourner très vite vers M. Hulot pour lui demander que cette chose très importante soit mise en vigueur.
Donc, livret du développement durable qui deviendrait
solidaire,
développement durable et solidaire, tout simplement.
Donc
une
partie,
offre obligatoire pour les banques
de présenter aux particuliers qui souscriront ou non, et ceci se financera des entreprises. Bon, voilà. Alors, le deuxième coup de main qu'on demande, qui est très important, mais c'est dans l'espoir d'arriver au 1% que vous citiez tout à l'heure, c'est l'assurance-vie solidaire, qui est aujourd'hui très peu répandue. Or, c'est le principal actif des ménages. Dans les 4500 milliards, c'est 1700 milliards. Et donc, on ne changera pas d'échelle, la finance solidaire, si on ne met pas à contribution l'assurance-vie. Donc, ce que nous demandons aussi au Parlement et au gouvernement, c'est de faire comme pour l'épargne salariale, d'obliger les compagnies d'assurance à présenter une offre solidaire dans l'offre d'assurance-vie, en espérant aussi que les particuliers y souscriront, comme ils l'ont fait pour les deux autres. Mais si nous allumons donc ces deux moteurs complémentaires, l'épargne réglementée, l'assurance-vie après l'épargne salariale, nous arriverons à l'objectif de 1% vers 2025. Donc, on a besoin du soutien des pouvoirs publics. Et je rajoute, pour les convaincre, que outre les effets que ça produit, ça n'a pratiquement aucun coût pour les finances publiques, puisque dans le fond, pour l'essentiel, c'est affecté ou fléché de l'épargne privée vers un emploi privé. Et donc, le coût est vraiment très, très faible. Donc, ils ont tout intérêt à le faire.
Et en termes d'emploi, on va y revenir, cela joue évidemment. Les banques elles-mêmes prennent des initiatives quand même en attendant ces lois que vous réclamez ou ces décrets.
Alors, tout à fait. Elles en prennent beaucoup. Et en complément de ce que disait Frédéric Thiberghien, il y a une multitude d'initiatives qui peuvent être prises à différents niveaux, aussi bien par les acteurs bancaires eux-mêmes, puisque je pense qu'aujourd'hui, à peu près toutes les banques de la place proposent un produit d'épargne solidaire, et également donc au niveau des décideurs, que ce soit au niveau gouvernemental, mais également au niveau des territoires. Il y a beaucoup à faire au niveau régional de la part des décideurs territoriaux pour encourager la notoriété. En fait, ce dont on souffre beaucoup en termes de finances solidaires ou d'économie sociale et solidaire même globalement, c'est un déficit de notoriété. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir agir à tous les niveaux de promotion, d'information, de diffusion. Je vois les journalistes que vous êtes et tous ces supports sont importants. Mais au niveau des décideurs, c'est fondamental que les politiques publiques aussi puissent encourager ce type d'épargne. Au niveau bancaire, comme vous me posiez la question, je voudrais signaler la publication très récente du Labo de l'ESS. Donc, c'est bien le Labo de l'ESS, effectivement, qui est un think tank de l'économie sociale et solidaire, qui a travaillé sur un groupe de travail banque et territoire sur justement quelles sont des propositions assez concrètes à apporter aussi bien à destination des banques elles-mêmes qui, certaines ont des initiatives tout à fait remarquables, que ce soit des produits ou que ce soit des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également comment est-ce qu'on peut mieux interconnecter finalement ces initiatives un peu isolées et que ça reste pas, on va dire, un passage obligé pour répondre, dire qu'on le fait. Et donc, on a une douzaine de propositions qui sont sorties sur différents axes et qui illustrent bien à quel point, quand on regarde sur le terrain, il y a des initiatives qui méritent réellement d'être connues pour pouvoir être dupliquées, répliquées, appropriées sur sur les différents territoires.
La question des emplois, Romain Stettin, centrale, surtout dans les territoires un petit peu défavorisés.
Oui, c'est d'ailleurs pour convaincre les pouvoirs publics, il faut avant tout mettre en avant l'efficacité de cette forme d'économie, parce que vous avez rappelé un certain nombre de chiffres. Quand on sait que dans les dernières années, il y a eu plus de 440 000 emplois créés avec un taux de croissance de 23%, quand on sait qu'il y a dans les prochaines années, 5 prochaines années, environ 600 000 emplois qui sont prévus d'être créés, et surtout quand on sait que cette forme d'économie, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, ont dans leur ADN la création d'emplois et d'emplois qui sont par définition non délocalisables, qui sont ancrées sur les territoires et qui ont pour vocation de servir la société et les territoires. Donc on est vraiment en pariant, enfin ce qu'il faut vraiment faire comprendre au pouvoir public, et je pense que tous les acteurs autour de la table, on y contribue à notre manière, mais c'est véritablement que c'est une économie inclusive qui permet une création d'emplois forte et des emplois durables et ancrés sur les territoires. Et évidemment, pour convaincre, c'est cette efficacité, cette création d'emplois qui permettra de changer d'échelle, je pense. Oui.
Emploi quand même peu qualifié, est-ce qu'on ne parle pas surtout, mais c'est peut-être un lieu commun, est-ce qu'on ne parle pas surtout à propos d'économie sociale, je ne parle pas vers l'environnement, mais plutôt social solidaire, d'emploi par exemple, d'assistance à la personne, ou de contrat autour des personnes âgées, ou est-ce que vous avez parlé d'innovation, est-ce que les deux sont conciliables?
Oui, question, mais hein. c'est souvent une idée qu'on se fait de l'économie sociale et solidaire uniquement donc pourvoyeuse d'emplois peut-être un peu faiblement qualifiés, d'emplois et donc d'être une économie de réparation, une économie un petit peu parent pauvre de ce qu'on peut observer dans l'économie traditionnelle. Alors que là, ce qu'on observe de façon très très notable, c'est un renouveau très fort de l'innovation sociale portée par une variété incroyable de types d'entreprises et de profils d'entrepreneurs qui, au contraire, cherche à se développer, à changer d'échelle. Et donc là, on est très loin de l'économie précaire qu'on peut imaginer.
Romain Slétine, on vous a interrompu.
Non, mais c'est tout à fait ça. Vraiment, il y a cette grande diversité d'emplois. Et dans tous les cas, on pense pour les emplois un peu moins qualifiés, par exemple au secteur de l'insertion par l'activité économique, qui a évidemment une utilité essentielle pour remettre à l'emploi et faire la première marche pour des personnes qui ont été au chômage de longue durée, qui n'ont jamais eu accès à l'emploi. Et du coup, c'est évidemment ces emplois peut-être moins qualifiés, mais avec un accompagnement social et une formation professionnelle qui permettent ensuite de pérenniser et de rendre accès à l'emploi pour le plus grand nombre.
Frédéric Thiberguin, pour
Moi, je voudrais simplement faire observer qu'il faut se méfier quand on classifie, on dit des emplois ne sont pas qualifiés. Effectivement, le médico-social est un secteur très important dans l'économie sociale et sociale, mais je fais partie de ceux qui considèrent que ce sont des métiers très qualifiés. Parce que les métiers relationnels, quand il faut gérer en direct la réaction d'une personne âgée, dépendante, d'un grand malade, il faut énormément de formation, de psychologie, de réactivité. Et donc, ce sont probablement parmi les métiers les plus difficiles à exercer. Donc, je crois que l'ESS s'est beaucoup professionnalisé. Été dit, donc une grande partie de sa valeur ajoutée tient dans le degré de formation de ses membres. Et moi, je crois que je ne fais pas de distinction entre emplois qualifiés, non qualifiés, ils sont tous qualifiés, mais je rejoins ce qu'a dit Slétine, c'est-à-dire qu'il y a un cas à part qui est le SAS de l'insertion par l'activité économique, mais c'est aussi une valeur ajoutée très forte parce que les entreprises ne recrutent pas directement des chômeurs de longue durée. Et s'il n'y avait pas ce pan entier qui remet progressivement, qui ramène sur le marché du travail des gens qui ont été durablement exclus, nous aurions un drame social et l'insertion par l'activité économique permet de requalifier des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Donc je crois qu'elle joue un rôle très utile.
Est-ce que ça veut dire que vous travaillez davantage avec les collectivités territoriales, avec le local, avec les petites structures, avec peut-être de grandes villes ou même au niveau des régions, des départements, Yael Zoltowski?
Vraiment pour moi et ma pratique, en tout cas de mon cas, ça se situe à tous les niveaux. Et c'est important de garder cette idée de multi-niveau et de multi-acteurs. Bien sûr, l'économie sociale et solidaire, par définition, on dit souvent que c'est des emplois non délocalisables, donc qui sont par essence très proches du terrain. Mais ça n'empêche pas d'avoir également une conception de l'économie. Finalement, l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois des secteurs, mais c'est également une conception de l'économie qui peut du coup s'appliquer à tout type d'entreprise, y compris à des entreprises de taille très importante.
Grandes entreprises, justement, quelques exemples, les uns ou les autres, Romain Slétine ou Frédéric Thiberguin?
On a de très beaux exemples de réussite. Par exemple, pour lever des fonds, Habitat Humanisme, qui fait du logement très social, a réussi à lever plus de 130 millions d'euros en une dizaine d'années pour construire des établissements qui accueillent des gens en situation difficile, qui ont des difficultés de logement. C'est un cas très intéressant. Alors, un autre cas très intéressant, mais qui est un financeur solidaire, c'est France Active, et ça rejoint votre question. question précédente, qui est un réseau d'accompagnement et de financement qui est implanté sur tout le territoire et qui permet d'accompagner des jeunes entreprises lors de leur création, de les financer, de garantir leur pérennité. France Active lève chaque année plus de 20 millions d'euros de fonds propres grâce à la finance solidaire, et c'est grâce à ça qu'elle peut à son tour investir dans des entreprises. Donc c'est l'effet de levier de la finance et son côté vertueux quand elle est au service de projets concrets sur les territoires.
Et qui peut aller du côté, alors je reviens là, du côté de l'épargne salariale, hein, qui est l'actionnariat d'entreprise, et oui. Puis le salariat, vous en avez parlé là avec la loi de 2008, ou bien des fonds diversifiés. Il y a des exemples, là, je voyais Schneider Electric, je crois que c'est chez oui. vous que je l'ai lu, ou dans le livre de Romain Stittin, je ne sais plus, un fonds dédié, hein, qu'elle a mis en place pour financer des projets d'accès à l'énergie dans le monde.
Alors, là, il y a quelques cas d'entreprises, de grandes entreprises qui ont effectivement créé des fonds pour faire des investissements à impact dans leur secteur d'activité. Renault l'a fait sur la mobilité, Schneider sur l'électricité, Danone le fait sur l'alimentation. Donc on a aussi, c'est très intéressant, quelques grands groupes qui, dans le cadre de leur politique RSE, respect sociétal des entreprises, ont mis en place des fonds de cette nature pour aussi permettre aux salariés d'investir oui. dans des activités de ce genre.
Et ça marche plutôt bien.
Et ça marche bien.
Encore une question, Romain Slétine. On remarque, si l'on revient à la stratégie européenne, là, je reviens à Benoît Hamon d'ailleurs, qui avait un peu poussé dans ce sens, 2020 pour les 10 prochaines années, l'économie sociale et solidaire, curieusement, n'est pas clairement citée dans les 7 initiatives phares, parmi lesquelles une stratégie numérique, une union pour l'innovation. Je mentionne 2 ou 3 exemples, une jeunesse en mouvement, une politique industrielle mondialisée, etc. Comment faire pour davantage avancer côté européen? J'imagine que ça fait partie de vos soucis aux uns et aux autres.
Oui, bien sûr, c'est un enjeu essentiel. Alors, je pense que il faut avancer sur la culture. Alors, évidemment, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle parfois aussi d'économie sociale et solidaire à la française, avec un certain nombre de particularités historiques qui parfois font qu'on se comprend mal entre les différents pays. Donc, c'est une des problématiques. Il y a aussi, du coup, un problème de notion. Certains parlent d'économie sociale et solidaire, d'autres vont parler plutôt d'innovation sociale, d'autres entrepreneuriat social. On veut dire à peu près tous la même chose, je pense, mais ça pose des questions et, du coup, politiquement, ça n'a pas tout à fait non plus la même signification. Donc pour avancer, je pense que quelqu'un comme Yael Zutowski connaît bien aussi ces sujets, je pense qu'il faut aussi avancer par des coopérations un peu concrètes. Les banques, au niveau européen, les banques solidaires peuvent et ont des fédérations, ont des actions en commun pour avancer. On peut financer des projets européens. On peut aussi travailler sur de l'essaimage et du développement. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises ou européennes qui commencent à passer les frontières. Et je pense que pour promouvoir au niveau européen, il faut de beaux exemples européens de réussite d'entreprises sociales et solidaires. Donc c'est à mon avis aussi par le concret qu'on pourra avancer.
La Suède, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et bien sûr nous, la France, plutôt en pointe hein, en nombre d'emplois, de population active travaillant dans ce secteur. Mais là encore, c'est très perfectible, bien sûr.
Oui, alors moi j'ai travaillé longtemps à l'international sur les problématiques de finances solidaires et des fédérations de banques éthiques alternatives qui, comme la FEBA en Europe, d'autres regroupements. C'est vrai que c'est assez difficile d'essayer de faire reconnaître un statut peut-être européen d'entreprise solidaire. Il y a même des problèmes de traduction assez marqués. Mais vraiment, un point aussi très important, c'est qu'il y a l'économie sociale telle qu'on la conçoit dans l'Europe de l'Ouest, on va dire, historiquement, avec l'économie sociale qui date du 19e siècle. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans les pays d'Europe de l'Est, sur lesquels je me suis beaucoup intéressée, des pays comme la Pologne, sur lesquels il y a une tradition à faire émerger et plutôt qui se base à ce moment-là sur l'innovation et le microcrédit, la microfinance. C'est principalement de cette façon-là qu'on l'aborde.
Capitaliser, échanger toutes ces expériences. Tout dernier mot, Frédéric Thiberger, on passera
L'Europe qui est l'Europe de marché est centrée sur l'entreprise privée et l'économie libérale. Donc elle n'aime pas ces formes d'entreprise et elle les a abordées récemment sous un vocable, un angle particulier qui est l'entrepreneuriat social, qui est cette nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux qui ne poursuivent pas simplement comme objectif le profit. Alors il n'empêche que la Commission commence à s'intéresser à cela, mais c'est à la société civile d'imposer son agenda, ses vues, ses attentes. Aujourd'hui, les élites politiques européennes ne sont pas sur cette longueur d'onde, eh bien il faut le faire valoir et c'est à la société civile de se prendre en main.
On vous a entendu, Monsieur le Président, de FinanSol, donc Finance Solidaire. Merci à tous les trois pour vos éclairages. On passe à vos chiffres en commençant par ceux de Marie Bélan des Échos. Anne-Marie, quel est votre chiffre ?
Mon chiffre aujourd'hui, c'est 30%, et c'est donc la hausse du volume des investissements étrangers qui se sont concrétisés en France en 2016, donc par rapport à 2015. Selon les chiffres du baromètre Ernst & Young, donc, qui ont été dévoilés cette semaine par les Échos, une telle hausse ne s'était pas observée depuis plus de 10 ans. En 2016, donc, on a donc 779 projets d'investissement étrangers qui ont été réalisés en France. Je précise qu'on entend, enfin en tout cas l'étude entend par projet d'investissement une première implantation en France ou une extension de site avec création d'emplois. Donc le nombre d'emplois d'ailleurs induit par ces investissements a lui aussi augmenté de 24%, ce qui est beaucoup, et on est sur un total de 17 000 emplois en 2016. Alors parmi ces projets un peu emblématiques, on peut citer le groupe Siemens par exemple, qui a rapatrié son centre danois de recherche et développement en débitmétrie dans le Bas-Rhin. C'est un site qui a quand même vocation à devenir le centre de compétences mondiales du groupe allemand sur le sujet. Et puis on peut aussi citer par exemple le groupe chinois Huawei, j'espère que je prononce bien, voilà, qui a choisi la France pour ouvrir son deuxième centre mondial de recherche en mathématiques. En 2016 n'a pourtant pas été une année toujours facile pour la France, là je pense vis-à-vis des investisseurs étrangers. Rappelez-vous les grèves, les manifestations qui ont émaillé le printemps 2016 sur la loi travail et qui ont pu donner, il ne faut pas se le cacher, une image parfois négative de notre pays pour nos voisins étrangers. Il y a eu aussi la succession des attentats ces 24 derniers mois sur le territoire français qui n'est pas toujours de nature en plus à rassurer les investisseurs. Et pourtant, la France a bel et bien retrouvé les faveurs de ses investisseurs étrangers. Alors, pourquoi ce rattrapage français ? Je précise néanmoins que la France est quand même toujours derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne en Europe. Mais le retard est rattrapé petit à petit. Alors comment a fait la France ? Eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César et reconnaître que le pacte de responsabilité qui a été initié et soutenu par François Hollande à partir de 2013 commence à produire ses effets. Je pense à la baisse du coût du travail qui s'en est suivie, qui est un argument très fort pour les investisseurs étrangers. Mais on peut aussi citer la volonté de réformer le marché du travail français, justement la loi El Khomri, qui a été perçue positivement par ces investisseurs étrangers. Enfin, la France reste une implantation de choix pour les centres de recherche, je le citais, et tous les pôles d'innovation des grands groupes internationaux. À ce titre, on ne dira jamais assez combien la constance des politiques publiques sur le long terme est un atout de poids. Et là, je citerai le crédit impôt recherche qui a été mis en place dans les années 80, qui a été considérablement renforcé en 2008, mais qui n'a jamais été remis en question par les lois de finances successives. Et ça, c'est un élément très très important pour les investisseurs. De même, l'excellence française qui est reconnue dans le monde entier, dans la formation de ses ingénieurs, scientifiques et en particulier mathématiciens, et qui suppose des budgets publics conséquents consacrés à la recherche, et là aussi un autre des facteurs déterminants pour les entreprises étrangères.
Une bonne année donc en progression, là encore, merci Marie Bellon. Alors très vite, on n'est pas sûr d'avoir le temps de tout le monde. Romain Slitine, avez-vous un chiffre ?
Alors moi j'avais trouvé 15 milliards puisque c'est le montant de l'économie réalisée qui a été faite à la collectivité sur 3 ans grâce à l'association Ciel Bleu qui a des méthodes de prévention de la dépendance des personnes âgées par une activité sportive adaptée. Et quand on calcule eh bien ce que ça a fait économiser à la collectivité sur à la fois les chutes et les diabètes de type 2, eh bien c'est un montant de 15 milliards d'euros. Et je trouvais que c'était important de montrer l'impact social de l'économie sociale. C'est-à-dire très concrète pour nos vies et nos finances.
Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur avec Géraldine Lacroix. Je l'ai signalé au PUF de l'économie sociale et solidaire. C'est la bonne collection, que sais-je. Yael Zoltowski, peut-être encore un chiffre.
Moi, j'avais élargi complètement, du coup, le chiffre qui m'a interpellée, en fait, c'est de me rendre compte que, en pleine campagne, quand on regarde les candidatures spontanées pour les candidatures d'un parti comme En Marche tout neuf, 15% de femmes. Et ça m'a beaucoup surprise. Et je me dis, voilà, c'est une réflexion que je voudrais porter pour la suite et faire en sorte que ce chiffre augmente.
Merci à vous, Frédéric Tiberghien. En deux secondes.
1085 milliards consommation médicale dans le monde. Et la grande nouvelle, c'est que la Chine est devenue le deuxième marché, mais très loin derrière les États-Unis qui sont encore la moitié de la consommation mondiale de médicaments à eux seuls. Donc ça explique que les pays émergents ne remplacent pas aussi facilement les vieux pays qui ont une industrie pharmaceutique puissante.
Merci encore à tous les trois. Frédéric Tiberghien, président de Finansol, qui vient de faire paraître son rapport très positif, on l'a bien vu, sur la finance solidaire. Romain Slitine, je l'ai dit, à Lyon, et Yael Zlotowski pour la Caisse solidaire. Merci à notre petite équipe. Anne-Laure Chanel réalise notre émission aujourd'hui avec Lydwin Caron, merci à elle. Et bien sûr, Laurence Genepin pour la préparation, la documentation. Un salut à Marie Bélan, journaliste aux Échos, dont on retrouvera les articles pour ce week-end. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Beaucoup de documentation à vous proposer sur notre site. Venez les y retrouver sur l'économie sociale et solidaire à samedi prochain. Et bien sûr, à suivre le journal.